à toutes et à tous, bienvenue dans le magazine du week-end, votre rendez-vous d'actualité que vous retrouvez chaque samedi et chaque dimanche de l'été. On est ensemble jusqu'à 13h50, une émission préparée par Amélie Perrault, Clara Garnier-Amouroux, Catherine Donnet, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde par Jacques Azubert. L'humanitaire a traversé une année noire, des scandales sexuels à l'insécurité, en passant par la criminalisation des ONG. Le secteur de l'aide n'a jamais autant douté. Une crise existentielle qui appelle à une refonte en profondeur. On en parle à 13h20 avec Pierre Micheletti, vice-président d'Action contre la faim. Mais d'abord, on s'intéresse à l'extrême droite américaine. Un an, jour pour jour, après les violences des suprémacistes blancs à Charlottesville, une militante antifasciste, Heather Heyer, y avait trouvé la mort.
Il y a quelqu'un par terre avec la jambe à moitié arrachée. Il y a des chaussures partout, du sang sur le trottoir. Je n'ai jamais vu une attaque raciste aussi horrible de toute ma vie. Ça a été tendu toute la journée. On sait qu'il y a des gens qui sont capables de ce genre de comportement, des blancs racistes qui nous en veulent. C'est vraiment de la haine gratuite, c'est de la folie totale.
Il y avait des gens très mauvais, mais il y en avait aussi d'autres qui étaient des gens très bien, dans les deux groupes. Je ne parle pas des néo-nazis et des suprémacistes blancs, mais il y avait des manifestants qui n'étaient ni l'un ni l'autre. Que dire de la gauche alternative? Ils ont chargé les manifestants. Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité, eux? Je pense que oui.
Vous ne nous remplacerez pas. Voilà le cri de ralliement des suprémacistes blancs, membres du Ku Klux Klan et néo-nazis. Tous étaient rassemblés ce jour-là pour protester contre le démantèlement d'une statue du général Lee. Face à eux, une contre-manifestation d'antifascistes. La situation dérape brutalement lorsqu'un jeune néo-nazi fonce en voiture dans le groupe. Donald Trump, on vient de l'entendre, renvoie alors les militants dos à dos. C'est la première fois qu'un président américain refuse de condamner, au moins au début, les violences de l'extrême droite. Un an plus tard, alors qu'un nouveau rassemblement se prépare à Washington, cette fois, faut-il s'attendre à de nouveaux affrontements? Quels sont les nouveaux visages de l'alt-right, la droite alternative? Et jusqu'à quel point peut-elle peser dans les élections de mi-mandat face à une gauche qui organise la riposte? Pour répondre à toutes ces questions et parce qu'on a eu envie de prendre aussi un peu de champ par rapport à cette actualité, nous avons invité trois historiens. Bonjour François Veil.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à l'EHESS et vous vous apprêtez à sortir un livre sur Charlottesville qui paraîtra dans quelques mois chez Fayard. À vos côtés, Corentin Célin, bonjour.
Bonjour.
Professeur en classe préparatoire, co-auteur de Les États-Unis et le monde, de la doctrine Monroe à la création de l'ONU 1823-1945 aux éditions Atland. Et enfin, par téléphone, Françoise Coste. Bonjour.
Bonjour.
Enseignante à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, et auteure d'une biographie sur Reagan, parue aux éditions Perrin. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors cette année, l'extrême droite s'est donné rendez-vous à Washington, à quelques enclablures de la Maison Blanche. Le rassemblement commencera ce soir. Pourquoi avoir choisi la capitale américaine plutôt que Charlottesville? Et est-ce que selon vous, François Veil, il faut s'attendre à de nouvelles violences extrêmes?
Alors, les militants néo-nazis ont choisi Washington plutôt que Charlottesville parce que il ne leur était pas possible de se rassembler à Charlottesville. Les autorités municipales et le gouverneur de Virginie avaient interdit la tenue d'une manifestation à Charlottesville. Quant à la possibilité de violence, les historiens n'aiment guère faire des prédictions, même à quelques heures de l'événement. Et je me garderai de répondre à cette question directement. Je dirais simplement que les circonstances dans lesquelles cette manifestation et la contre-manifestation qui est organisée vont avoir lieu, ces circonstances sont différentes de l'an dernier, sous une extrême surveillance, et que l'on peut penser que les forces de police, les autorités américaines, essaieront d'éviter le contact entre les deux groupes. Mais tout cela peut déraper.
Oui, les autorités avaient été pris en défaut d'anticipation l'année dernière. Cette fois, l'état d'urgence a été décrété dès mercredi dans l'état de Virginie et à Charlottesville. Pour vous, Corentin Célin, on peut malheureusement s'attendre à des violences?
Je rejoindrai François Veil pour ne pas faire de prédictions.
Parler en tout cas de très grandes tensions qui se sont attisées ces derniers mois.
De très grandes tensions qui se sont attisées, avec cependant une autre grande différence par rapport à l'année dernière. il faudra, et on y reviendra sans doute, le mouvement You Need the Right de l'année dernière était une sorte de crescendo voulu par l'extrême droite nationaliste blanche qui voulait justement apparaître réunie au-delà même de ses frontières traditionnelles. Et il faut bien voir que la tragédie de Charlottesville l'an dernier a aussi sévèrement marqué ce mouvement qui apparaît aujourd'hui désuni. Certains mouvements d'extrême droite qui étaient présents l'année dernière ont appelé explicitement à ne pas se rendre à Washington, à ne pas participer à ce second mouvement, car il faut bien dire que les violences de l'année dernière, même si elles ont été, relativisées par Donald Trump, ont montré le véritable visage à beaucoup d'Américains de ces mouvements d'extrême droite, et certains d'entre eux ne veulent plus être associés à Unite the Right.
Françoise Coste, qui sont aujourd'hui ces militants d'extrême droite? Il y a d'un côté les groupes un peu plus anciens comme le Ku Klux Klan, de l'autre des groupes qui se regroupent aujourd'hui autour de ce terme, l'alt-right, la droite alternative.
Oui, c'est des groupes qui essayent de moderniser, ou en tout cas l'image et la communication de ce courant qui a toujours existé aux États-Unis, bien entendu. Je confirme que certains de ces groupes ont perdu de leur dynamisme depuis l'année dernière, parce que quand même, ce qui est arrivé leur a fait du mal. Et puis certains leaders ont été arrêtés depuis, alors pas à cause de ce qui s'est passé à Charlottesville, mais pour des sordides histoires de violences familiales, par exemple. Mm-hmm. Donc, on a bien vu aussi que Twitter et Facebook essayent, tant bien que mal, de faire taire certaines de ces voix-là, donc en fermant des comptes. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un gros coup de massue sur ces groupes d'extrême droite. On peut aussi penser à Steve Bannon, qui était leur relais à la Maison-Blanche et qui, depuis, a quitté la Maison-Blanche. Mais en même temps, ce courant de pensée, il n'a peut-être pas besoin d'être organisé de manière hyper formelle pour quand même trouver un écho dans la population américaine et surtout pour ne pas, on l'a vu, être dénoncé explicitement par Donald Trump. Et au bout du compte, c'est peut-être ça qui compte, justement.
Le fait que les slogans racistes et néo-nazis ne soient pas interdits nous semble à nous, Français, un peu incompréhensible. Mais François Veil, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, le premier amendement qui protège la liberté d'expression, c'est quelque chose de presque sacré.
C'est quelque chose de sacré, si l'on parle d'une religion civile aux États-Unis. Oui, la Constitution en fait partie. Et la liberté d'expression fait partie des droits inaliénables des citoyens américains, même lorsque ils prennent des positions qui peuvent sembler à des Français inacceptables.
Mais alors, est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent depuis
Charlottesville? Oui, il y a des voix qui se sont élevées, pas seulement depuis Charlottesville, avant Charlottesville et depuis Charlottesville, non pas sur la limitation de la liberté d'expression, mais sur le fait que partout où cette extrême droite américaine s'exprimerait, elle trouverait en face d'elle des contre-manifestants qui, en se fondant sur le même principe, la même liberté d'expression, s'opposeraient à cette expression nationaliste. Et je crois que c'est notamment ce que les groupes Antifa ont essayé de développer depuis plusieurs années, avaient fait à Charlottesville et feront aujourd'hui à Washington.
Alors justement, vous parlez de ces Antifa, cette gauche radicale qui a aussi trouvé un nouveau souffle avec l'élection de Donald Trump. On assiste aujourd'hui à une montée de la violence d'extrême gauche, Corentin Célin. Et si oui, comment l'expliquer?
Il n'y a pas de véritable montée de la violence d'extrême gauche. Je dirais plutôt qu'il y a une volonté de la part, en particulier, on l'a entendu encore tout à l'heure, du président Trump et de la Maison Blanche, de faire à croire qu'il y a une montée équivalente dans cette perspective de tout relativiser et de mettre à équidistance la radicalité d'extrême gauche et la radicalité d'extrême droite. Sauf que les faits sont têtus. L'an dernier, c'est bien un néo-nazi de l'Ohio, venu de l'Ohio, qui a percuté et tué Ivor Ayer. Et ça, c'est incontestable. Mais il y a effectivement un discours dans la frange la plus radicale du conservatisme républicain qui dit il y a une violence aussi d'extrême gauche.
Alors il y a quand même des faits. Le suprémaciste Richard Spencer qui a été frappé en pleine conférence, des sympathisants de Trump également. Puis à Berkeley, les militants antifascistes ont interrompu la conférence d'un leader d'extrême droite en jetant des cocktails Molotov. Et à ce moment-là, c'est les militants d'extrême droite qui ont organisé une marche en faveur de la liberté d'expression. Françoise Coste, on peut tout de même parler d'une montée de cette violence d'extrême gauche, ou plus exactement peut-être d'une plus forte mobilisation?
Je pense qu'il vaut mieux effectivement parler de ce que la gauche américaine appelle la résistance par rapport à Trump, plutôt que de violence d'extrême gauche. Les groupes d'extrême gauche, les groupes antifa aux États-Unis, ils sont vraiment minuscules, hein, bien plus minuscules que ceux qu'on peut voir en Europe. Ils ne sont pas du tout représentatifs, ils n'ont pas vraiment de relais dans les médias ou de leaders connus. Et surtout, ils sont beaucoup moins violents que l'extrême droite. De toute façon, interrompre une conférence à Berkeley, symboliquement, c'est fort, mais c'est pas comparable à ce qui s'est passé l'année dernière à Charlottesville.
Donc ça peut ne pas être comparable, mais on peut le noter pour autant.
On peut le noter, mais je pense que s'il nous faut, à nous, observateurs, essayer de trouver un phénomène potentiellement intéressant et avec des conséquences politiques à long terme, il vaut mieux regarder comment certaines personnalités d'extrême gauche, ou de gauche, plutôt de gauche, disons radicale, essayent, en particulier avec les primaires en ce moment qui préparent les midterms, de se faire élire au sein du Parti démocrate. Ça, c'est plus intéressant et potentiellement plus fructueux que chercher, que de donner trop d'importance à ces groupuscules d'extrême gauche.
Alors, on va parler évidemment de ce qui est en train de se préparer en vue des midterms, mais je voudrais d'abord qu'on revienne aux origines de la mobilisation de l'année dernière à Charlottesville. La ville était alors en plein débat sur la nécessité ou non de retirer une statue du général Lee, mais aussi de rebaptiser le parc Lee et le parc John Jackson, donc tous deux généraux confédérés, en parc de l'émancipation et parc de la justice. Pourquoi est-ce que c'était intolérable pour les militants d'extrême droite, François Veil? Et est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont gagné, puisque la statue du général Lee, elle, en l'occurrence, elle est toujours là?
Alors, je vais essayer d'être bref, mais de résumer à grands traits, au fond, pour quelles raisons les événements de Charlottesville ont eu lieu et pour quelles raisons Heather Heyer est morte pour une statue. Et je crois que c'est ce qui permettra aux auditeurs de comprendre Charlottesville. Après la défaite du Nord, après la défaite du Sud, à la fin de la guerre de Sécession, les sudistes ont gagné la paix. Ont gagné la paix, c'est-à-dire qu'ils ont imposé, à partir des années 1880, aux États-Unis, un modèle racial et social dominé par la ségrégation, notamment dans le sud des États-Unis. Ce modèle social ségrégé s'est traduit par des symboles. L'un de ces symboles les plus importants a été les statues de soldats et de généraux confédérés dont le Sud s'est couvert entre 1880 et 1940. Parmi ces statues, il y a les statues du vaincu d'Appomattox, le général Lee, comme si en France, on avait, après 1870, dressé partout des statues du maréchal Bazaine, ce qui n'est pas le cas. Ces statues avaient une double fonction, une fonction mémorielle et une fonction sociale. Mémorielle, c'était le souvenir des confédérés. Sociale, c'était un rappel à l'ordre. Ça voulait dire, pour tous les blancs et pour tous les noirs du Sud, la statue disait « Attention, vous êtes dans un territoire où règne l'ordre racial néo-confédéré ». Voilà pour la première période. Deuxième période, à partir de 1940, des années 40 et jusqu'à aujourd'hui, ce modèle social a été remis en question. C'est ce qu'on a appelé le mouvement des droits civiques. Il a été remis en question d'abord par dans une dimension légale, avec la fin de cette ségrégation légale, puis avec une dimension économique qui n'a jamais été terminée, mais à partir des années 60 et 80, des années 70 et 80, et puis une dimension symbolique. Et c'est dans ce cadre-là que les symboles de l'ancien régime confédéré ont commencé à être contestés par les Africains américains.
Mais comment comprendre alors qu'il ait fallu attendre l'année 2017 pour que des débats aient lieu à Charlottesville autour du retrait ou non de cette statue? Et il faut aussi souligner que Charlottesville, c'est une ville qui a une réputation plutôt de ville progressiste dans un état qui ne l'est peut-être pas.
Oui, la statue du général Lee a été installée à Charlottesville en 1924 et l'ensemble de la ville blanche était rassemblée autour de la
petite-fille, l'arrière-petite-fille du général Lee pour l'érection de cette statue. En un siècle, presque un siècle, Charlottesville a beaucoup changé. C'est devenu une ville universitaire, une ville libérale. Mais les Africains-Américains de Charlottesville vous diraient que n'y règne pas et n'y a jamais régné une véritable égalité raciale. Alors, les débats à Charlottesville sur la statue ont commencé avant 2017, mais ils se sont développés dans les années 2010 parce que auparavant, les questions centrales pour les Africains américains de Charlottesville, c'était d'abord la déségrégation de droits et puis l'égalité économique. Encore une fois, sur aucun des deux points, on est parvenu à une égalité réelle. Mais depuis quelques années, ça a commencé en fait dans les années 80 et 90, ont commencé ces débats sur les symboles. Et ces débats sur les symboles ont suscité deux types de résistances, des résistances sudistes, c'est-à-dire vraiment limitées au sud et qui sont des résistances assez classiques qu'on avait déjà vues pendant les batailles du mouvement des droits civiques, et quelque chose de nouveau qui est ce qui s'est produit à Charlottesville, c'est-à-dire l'opportunisme de l'extrême droite américaine qui s'est saisie d'un sujet qui n'était pas un sujet pour elle au départ, et qui a transformé Charlottesville en un drame comme celui qu'on a vu en août 2017.
Samedi dernier, l'extrême droite s'est réunie à Portland. En juin dernier également, il y avait eu des violences entre suprémacistes et militants antifa dans la ville. Portland, Charlottesville, donc des villes progressistes, c'est un choix qui n'est évidemment pas un hasard. C'est là, c'est un lieu de friction important, Corentin Célin.
C'est une volonté de la part de l'extrême droite qui a été revivifiée par l'élection de Trump. Il faut se rappeler que Donald Trump n'a désavoué le soutien que lui apportaient de grandes figures comme de l'extrême droite, comme l'ex-grand sorcier du Ku Klux Klan, David Duke. Il ne les a désavoués que très peu de temps avant l'élection, et contraint et forcé. Et l'extrême droite s'est vraiment sentie revivifiée par son élection, comme Duke ou, vous l'avez cité, Richard Spencer, à qui on attribue la paternité de l'alt-right, l'ont dit, enfin l'un des nôtres a gagné. Alors après, Trump a dit non, je les désavoue, mais vraiment contraint et forcé. Et donc l'extrême droite essaye de se réimplanter dans l'espace public depuis lors. Et il y avait une véritable dynamique entre l'élection de Trump en novembre 2016 et le mois d'août 2017, Charlottesville. Comme on le disait tout à l'heure, cette dynamique, même si elle se poursuit, vous le rappeliez, elle s'est quand même tarie, car la nouvelle extrême droite, celle incarnée par Spencer, se voulait justement moderne, sur les réseaux sociaux, nouvelle. Et on a vu bien l'année dernière à Charlottesville qu'elle n'avait pas changé et que c'était toujours les mêmes manifestations nazies de violence. Alors oui, il y a une volonté de réappropriation de l'espace public, de défi, pour aller au contact avec justement ceux qui sont identifiés comme les ennemis, c'est-à-dire la gauche américaine.
Ces villes, François Coste, elles sont visées parce qu'en quelque sorte, elles seraient vues comme des emblèmes du multiculturalisme, qui est tout ce que rejettent ces militants d'extrême droite.
Oui, alors Portland, c'est pas une grande ville noire, hein, faut pas exagérer, mais effectivement, c'est la grande ville de l'Oregon qui a une réputation d'être très 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 à l'avant-garde culturelle et politique. Et cet après-midi, Washington, c'est alors là pour le coup, bon, c'est la capitale fédérale, bien entendu, mais c'est au point de vue municipal une grande ville noire où l'immense majorité de la population est noire. Donc on sent. Mais ça aussi, c'est une tactique typique de l'extrême droite, cette volonté d'aller au clash, de faire de la provocation pour apporter de l'eau à son moulin idéologique et symbolique, en pensant que, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, cet après-midi à Washington, il y aura sans doute plus de forces de l'ordre que de manifestants. Donc là, les choses sont sans doute beaucoup mieux préparées que l'année dernière.
Alors,
la police avait été au-dessus de tout.
Facebook s'est rendu compte il y a 3 semaines que de faux comptes de militants antifascistes avaient été créés, qui appelaient au rassemblement sur le réseau social. L'objectif, c'était apparemment d'attiser les tensions entre extrême droite et gauche radicale. L'ombre de la Russie plane à nouveau sur ces manipulations. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les liens qu'entretient une certaine part de certaines figures à Moscou avec certaines figures de l'extrême droite américaine? Françoise Coste.
Oui, alors ça c'est un sujet étonnant parce que tout n'est pas très clair et transparent, mais il y a de gros soupçons sur le fait qu'une partie de cette extrême droite est encouragée, voire financée par la Russie. Les indices montrent que, par exemple, c'est clair, c'est Steve Bannon qui est arrivé en Europe cet été en disant haut et fort que lui voulait faire don de sa personne à l'Europe et encourager les mouvements d'extrême droite et suprémacistes blancs européens. Et on sent dans l'extrême droite américaine, et ça explique, bien entendu, c'est avec la toile de fond de du procureur sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, on sent une grande sympathie de l'alt-right américaine pour ce que représente la Russie de Vladimir Poutine, avec, si vous voulez, une solidarité de la culture blanche. Alors, c'est-à-dire que la Russie serait le dernier pays défendant l'identité blanche européenne.
Alors Trump a créé la polémique le mois dernier en estimant ne pas savoir qui de ses services ou du Kremlin disait la vérité dans les soupçons d'ingérence russe pendant la campagne. Et pour l'historienne Catherine Olmsted, c'est finalement un clin d'œil de Trump à ses supporters, car il y a du côté de l'extrême droite une tradition de méfiance envers les services de renseignement. Il serait associé à ce concept complotiste d'état profond. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Veil?
Bien, ce qui est vrai, ça a été montré dans un livre tout à fait récent par une historienne américaine, que cette extrême droite que nous voyons aujourd'hui dans la lumière s'est beaucoup développée depuis les années 70, depuis la guerre du Vietnam, notamment la fin de la guerre du Vietnam, dans une opposition à l'État. Avec des mots d'ordre et des convictions d'ailleurs complotistes extrêmement développées, ce qui les a amenés à imaginer toutes sortes de choses, et ce qui rend à leurs yeux tout à fait plausible des schémas complotistes qui ne sont avérés nulle part, mais qu'ils tiennent pour acquis, notamment lorsque cela met en cause le fonctionnement de l'État américain ou les services de l'État américain. Et lorsque le président des États-Unis leur donne du grain à moudre, il va de soi que ces Américains-là, et dont le spectre dépasse de loin le petit noyau des militants durs, qu'on retrouvera pour certains à Washington cet après-midi, ces Américains-là se reconnaissent dans les propos du président des États-Unis.
Et ce n'est sans doute pas anodin à 3 mois des élections de mi-mandat. Corentin Célin, on peut dire que cette opposition à l'État des militants d'extrême droite dont parle François Veil, elle s'est ensuite transformée en une volonté de défendre la race blanche. Il y a eu un glissement un petit peu dans les combats qui ont été portés par l'extrême droite ces 40 dernières années.
Alors, on peut dire en fait qu'il y a plutôt une superposition, parce que comme en Europe d'ailleurs, l'extrême droite états-unienne, même si elle a longtemps été groupusculaire, est diverse. Il y a une tradition, effectivement, qu'on a vu ressurgir, par exemple, sur la gestion des terres fédérales dans l'Ouest. Il y a une tradition de méfiance, d'hostilité très forte, en particulier dans l'Ouest, envers un État qui est vu comme prévaricateur, qui est vu comme attentant aux libertés individuelles. Mais en même temps, il y a aussi d'autres groupes d'extrême droite, en particulier avec un mouvement nazi qui a toujours été présent aux États-Unis depuis les années 1930 et qui s'est transformé durant la guerre froide. Par exemple, on peut penser à la John Birch Society durant les années 60, qui, lui, a toujours fait de la défense d'une certaine identité occidentale puis blanche le cœur de sa doctrine. Et justement, tout l'enjeu de United Right, c'était de réunir tous ces courants de la droite extrême américaine, et c'était aussi le projet de Steve Bannon quand il a pris en main le pure player Breitbart, et il voulait en faire le véhicule justement pouvant réunir toutes les extrêmes droites américaines et tracer des ponts avec le conservatisme plus traditionnel.
François Veil.
Oui, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je crois que l'une des grandes questions que cela pose, c'est la perméabilité entre ces milieux et le Parti républicain, qui est une des grandes questions qui se pose et qui explique le silence assourdissant du Parti républicain devant les événements de Charlottesville, par exemple.
La mobilisation de l'alt-right passe par les défilés de rue, les réseaux sociaux, mais aussi par l'entrée en politique. Cette année, pour la première fois depuis bien longtemps, des néo-nazis sont candidats aux primaires républicaines, justement. Autant, plusieurs membres aussi de l'alt-right le sont. Autant de candidats ouvertement sectaires pour des élections de mi-mandat, Françoise Coste, c'est quelque chose d'inédit?
Alors, au sein du Parti républicain, en particulier depuis les années 60-70, il y a toujours eu une frange très radicale et complotiste, raciste, suprémaciste. La différence aujourd'hui, c'est justement grâce à l'élection de Trump, ces gens-là se cachent de moins en moins et quittent en fait la frange pour essayer d'intégrer le Parti républicain. Ouvertement, avec des pubs, des discours où ils ne se cachent pas du tout et, comme le disait François Veil, sans être condamnés par le reste du parti. Alors, ils ne gagnent pas toujours les élections primaires, heureusement, mais il y a quand même un phénomène de normalisation de cette parole-là qui, au lieu de faire scandale, est en train de devenir politics as usual.
Alors,
ni Trump ni le reste du parti ne fait quoi que ce soit.
Oui, et Donald Trump a plus besoin que jamais de mobiliser sa base aux élections de mi-mandat en novembre prochain, car les démocrates semblent en bonne place pour remporter au moins la Chambre des représentants et les élections locales font figure de test. Or, le candidat soutenu par Trump dans l'Ohio a été réélu de justesse cette semaine. Il s'agit pourtant d'un bastion très fidèle aux républicains. On peut dire aujourd'hui que l'inquiétude monte dans le camp conservateur, Corentin Célin ?
Oui, il y a une inquiétude, même si Donald Trump essaye de les rassurer et de les exalter par ses tweets en leur disant « je referai 2016 précisément ». En surmobilisant sa base électorale blanche, en particulier un électorat blanc populaire dans lequel les thèses de l'extrême droite peuvent être assez partagées. Et il faut noter que parmi les instruments de mobilisation qu'utilise Donald Trump ces dernières semaines, il y a une véritable campagne de ce qu'on appelle aux États-Unis de dog whistling. C'est une métaphore par rapport au sifflet à ultrason utilisé avec les chiens. On appelle ça en politique américaine, c'est quand on fait des allusions raciales, mais déguisées dans le message. Et qu'est-ce qu'a fait Donald Trump ces dernières semaines? Il s'en est pris, par exemple, très violemment au journaliste afro-américain Don Lemon et au basketteur afro-américain LeBron James, en utilisant de manière voilée, de manière très subtile, des clichés racistes très anciens sur les Afro-Américains. Et c'est cette façon de pratiquer donc des clins d'œil permanents sont compris par sa base populaire blanche et ça lui permet de la garder mobilisée. Et c'est sur cette mobilisation qu'il compte pour novembre.
Mais alors toute la question aujourd'hui, c'est est-ce que les électeurs de Trump vont se mobiliser pour des figures locales, des républicains qui appartiennent à cet establishment qu'il rejette ? François Veil.
Je pense que là, les situations locales et les personnalités joueront un rôle important. Et à l'inverse, d'ailleurs, il y aura des contre-mobilisations importantes. Moi, je suis frappé aujourd'hui par la manière, vous avez cité ces exemples, par la manière dont le président des États-Unis ravive sans cesse la question raciale aux États-Unis et en pensant que il va gagner. Rappelons quand même qu'il a gagné de justesse en 2016. Il a certes gagné, mais il a gagné de justesse.
Puis il a gagné en mobilisant autour de sa figure.
Et il a gagné en mobilisant autour de sa figure. Et l'une des questions qui sera tranchée par les élections de mi-mandat, c'est de savoir jusqu'à quel point
les électeurs américains qui ont choisi Trump parce qu'ils ne voulaient pas d'Hillary Clinton se sentiront représentés par le durcissement permanent et le discours adressé au noyau dur du Trumpisme dont fait preuve le président. Je n'en suis pas persuadé, d'autant plus que de l'autre côté, il y a quand même une très forte mobilisation des Africains américains et d'un certain nombre de centristes américains qui ne se reconnaissent pas dans le Trumpisme et qui voient avec émotion ce qui se déroule partout. On le voit aussi avec le développement d'un mouvement dont on a parlé tout à l'heure très rapidement, mais qui est important, le mouvement Black Lives Matter, qui s'est développé aux États-Unis à la suite des morts fréquentes de jeunes noirs tués par les forces de police américaines à travers tout le territoire, et qui est quelque chose qui relève aussi de ces logiques de résistance que nous évoquions tout à l'heure.
Mais alors justement, François Scoss, comment est-ce que la mobilisation s'organise du côté des démocrates? Parce qu'on sait que les démocrates font aussi face à des difficultés. En particulier, on a du mal à l'heure actuelle à voir se dégager vraiment un programme et surtout une figure de leader.
Oui, les tensions qu'il y avait eu dans les primaires de 2016 entre Sanders et Clinton ne sont pas à l'évidence réglées au sein du parti. Et donc, les primaires actuelles le montrent bien, avec dans certains endroits des candidats marqués très à gauche, héritiers de Sanders, qui l'emportent contre des candidats établis centristes. Mais est-ce que ça peut marcher sur le plan local? Est-ce que ça va préfigurer d'une évolution au plan national? Personne ne le sait, et j'en doute. Et la question qui se pose aussi, c'est que les démocrates ne seront pas d'accord sur quelle stratégie à adopter par rapport à Trump, en particulier à quel point centrer leur campagne soit sur des questions sociales ou économiques du type Obamacare, ou bien aller franchement dans la dénonciation de Trump et la promesse d'un impeachment potentiel si les démocrates gagnent une des deux chambres, en particulier à cause de l'enquête du procureur Mueller. Est-ce que les Américains moyens, est-ce que dans les circonscriptions locales, les gens s'intéressent à l'enquête sur l'ingérence russe? La question se pose, et donc, est-ce qu'il faut être plutôt, aller radicalement contre Trump ou pas? La question n'est pas tranchée, et de toute façon, et la question du leadership ne sera pas tranchée non plus jusqu'à la fin de l'année. On peut penser que les candidats démocrates aux prochaines primaires pour 2020 se déclareront à la fin de l'année 2018 ou début 2019, après les midterms.
Et alors la grande nouveauté côté démocrate, François Scoss, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes candidates. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors ça fait partie, c'est une des facettes de la résistance que j'ai évoquée tout à l'heure, où on voit bien que la défaite d'Hillary Clinton a laissé de profondes traces au sein du Parti démocrate, en particulier chez les militantes ou les sympathisantes du parti, qui, c'est pas juste qu'elle a perdu Hillary Clinton en tant que première femme candidate, c'est qu'elle a perdu contre Trump. Donc symboliquement, ça a été très dur à avaler, et il y a eu un sursaut, indéniablement, un sursaut des militantes femmes pour entrer en politique, rejoindre le parti, se présenter aux primaires, être militante active, et de plus en plus, donc on le voit effectivement, remporter des primaires. Et ça, c'est toutes les femmes, et en particulier, vous avez raison, les femmes africaines-américaines, qui, elles, ont doublement, une double motivation, si vous voulez, de se lever contre Trump. Et si les démocrates gagnent en 2018, en tout cas une et deux chambres, cela amènera sans doute un vrai renouvellement des élus de base du parti, du groupe parlementaire. Est-ce que ça sera ensuite, est-ce que ça aura aussi un impact sur le renouvellement du leadership du parti et sur les candidats de 2020? Ça, c'est à voir, mais on peut l'espérer.
Corentin Célin, Donald Trump serait extrêmement fragilisé. S'il perdait la Chambre des représentants, il aurait beaucoup plus de mal à faire passer ses lois.
Si jamais les démocrates reprennent la Chambre des représentants, on arrivera à une situation de blocage absolu. Il ne se passera plus rien pendant 2 ans, puisque on aura une Chambre des représentants qui fera la guerre au président, et un président qui, effectivement, au vu de l'hostilité qu'il suscite, perdra toute marge de manœuvre. Et en fait, la campagne présidentielle, c'est déjà un peu le cas, mais là, elle commencera immédiatement dès janvier 2019 pour solder le conflit entre une éventuelle Chambre des représentants des représentants démocrates et le président. Donc ce serait, oui, fragilisé, mais ce serait surtout un blocage institutionnel complet.
Les démocrates auraient intérêt à lancer un impeachment, François Veil ?
Ils y auraient certainement intérêt. Est-ce qu'ils en auraient la capacité ? Ça n'est pas acquis. Donc je ne suis pas sûr qu'ils choisissent cette stratégie-là sans avoir la certitude de l'emporter et face à un président qui, malgré tout, a transformé les manières, a transformé les codes du combat politique. Il n'est pas sûr que des tweets quotidiens sur l'impeachment, ça n'était pas le cas la dernière fois qu'il y a eu une tentative d'impeachment, on ne connaissait pas encore Twitter. Il n'est pas sûr que les démocrates considèrent que ce soit la meilleure stratégie d'avoir à combattre le président sur Twitter.
Je voudrais qu'on dise, qu'on revienne sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est vraiment cet avenir de cette extrême droite américaine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'extrême droite se radicalise à mesure que les non-blancs aux États-Unis sont en train de devenir majoritaires compte tenu des évolutions démographiques ? Corentin Célin ?
Oui, c'est absolument central, en tout cas dans la pensée, par exemple, d'un Richard Spencer, dont on a déjà beaucoup parlé, qui défend l'idée de créer à minima de véritables... Alors, lui parle d'ethno-État blanc. Il voudrait créer des États où il n'y aurait que des blancs. Et alors, par quels moyens ? Il reste très mystérieux, parce que comment on ferait partir les Américains qui ne sont pas blancs. Et effectivement, c'est relié à cette angoisse profonde dans ce mouvement de l'avènement d'États-Unis complètement multiculturels où les minorités vont devenir la majorité. C'est déjà le cas, on le sait, par exemple, dans une grande métropole comme Los Angeles. Et vraiment, effectivement, c'est une angoisse existentielle qui est au cœur de la pensée de ces mouvements.
Et d'ailleurs, les idéologues français d'extrême droite, comme Renaud Camus et sa théorie du grand remplacement, sont connus, très appréciés au sein de la alt-right américaine, Françoise Coste.
Oui, comme dans le petit magnéto que vous avez joué tout à l'heure, il y avait « You will not replace us », vous ne nous remplacerez pas. Donc on est en plein dans cette doctrine-là. Alors effectivement, ces intellectuels français sont élus par ces Américains-là, et ça explique aussi, maintenant avec un peu de recul, que ce qui a fait la clé de la victoire de Trump en 2016, c'est l'immigration. Et ça explique aussi que Trump en remet une couche. C'est-à-dire qu'on peut voir un fil direct entre ce qui s'est passé, par exemple, l'année dernière et au printemps, la décision de l'administration Trump de séparer les familles à la frontière mexicaine, de mettre les enfants dans des cages, voilà. En fait, en réalité, l'extrême droite... Son boulot est fait quelque part. Elle n'a plus besoin de manifester quand on met des enfants mexicains dans des cages à la frontière. Elle a assez de relais au sein de l'administration Trump pour s'estimer très satisfaite.
Le chercheur Romain Huret préconise plutôt le déclin de ses thèses et mobilisation, prédit plutôt le déclin de ses thèses et mobilisation raciste et il mobilise pour cela la pensée du sociologue Norbert Elias. Selon lui, plus un processus de civilisation est en cours, plus les résidus des pratiques anciennes semblent violents. Selon vous, François Veil, pour conclure cette émission, ces résurgences racistes sont amenées à disparaître. Quel est l'avenir de cette frange extrême de la
droite ? Moi, je réagis en historien et j'ai le sentiment que nous sommes face au nouvel avatar d'une bataille qui a commencé à se jouer il y a à peu près 8 décennies, qui est en fait la fin du modèle ségrégé et la nouvelle reconstruction que les États-Unis ont commencé. Mais jamais depuis les années 40-50, on est arrivé à un modèle d'équilibre. Il faut quand même se souvenir qu'au début des années 60, l'extrême droite sudiste plastiquait l'église de Birmingham en tuant les enfants qui y étaient. Donc la violence ne date pas d'aujourd'hui, la violence extrême. Mais il me semble que nous sommes aujourd'hui dans ce modèle continué, dans cette violence continuée, et c'est pourquoi je ne suis pas optimiste pour la suite.
Corentin Célin, sur l'avenir de cette extrême droite américaine.
Je rejoins complètement ce que vient de dire François Veil. On a vraiment une extrême droite, comme on a pu le dire, en France, en Europe, qui est décomplexée depuis l'avènement de Trump. Et il est à craindre que, au fur et à mesure des évolutions démographiques, au contraire, la violence augmente.
Oui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette première partie. François Veil, on attend donc votre livre sur Charlottesville qui paraîtra dans quelques mois chez Fayard. Je rappelle vos livres, Corentin Célin et Françoise Coste, Les États-Unis et le monde de la doctrine Monroe à la création de l'ONU aux éditions Atland et Reagan aux éditions Perrin. Un grand merci.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. On my Kodak. Black. Know that. Contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Blow.
America. I just checked my following. Listen. You motherfuckers owe me.
Get your money, black man.
Black man.
Get your money, black man.
Black man.
Get your money, black man.
Black man.
Get your money.
On tourne cette page américaine et on s'intéresse à l'aide humanitaire, 6 mois après les révélations d'exploitation sexuelle qui ont frappé de plein fouet de nombreuses ONG.
Le magazine du week-end, Tiffane de Roquigny.
La révélation a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de l'aide. En février dernier, le Times dévoilait que le directeur d'Oxfam en Haïti avait organisé une soirée avec des prostituées haïtiennes dans les locaux de l'ONG. C'était peu après le tremblement de terre de 2010. Et le mois dernier, c'est un rapport parlementaire britannique qui estimait que l'exploitation sexuelle est, je cite, « endémique dans le milieu humanitaire ». Des scandales qui ont largement relancé les accusations de néocolonialisme. Le secteur humanitaire, hérité des années 70, peine toujours à se réformer et fait face à de nouveaux défis, la complexité croissante des terrains d'intervention et la stigmatisation des ONG d'aide aux migrants. Alors faut-il désoccidentaliser l'humanitaire? On va en parler avec l'un de ses plus fervents défenseurs. Bonjour Pierre Micheletti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin, vice-président d'Action contre la faim depuis 3 ans, après un long passé dans d'autres organisations humanitaires. Et vous êtes également professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Alors 6 mois après le scandale qui a éclaboussé de nombreuses ONG, quelles sont aujourd'hui les conséquences sur le terrain de ces révélations? Est-ce que vous diriez qu'il y a une plus grande méfiance des populations locales, Pierre Micheletti?
En tout cas, une des conséquences immédiates, c'est que dans le cortège de l'affaire MeToo, plus aucune grande ONG internationale ne peut se priver de mettre en place des dispositifs visant à détecter et à traiter de telles questions. Ce qui veut dire, entre autres, se donner les moyens financiers et en termes d'organisation de pouvoir traquer ce type de dysfonctionnement. J'ai pas l'impression par ailleurs que, enfin, même si je suis dans une fonction assez éloignée du terrain, que ça induise immédiatement une plus grande défiance de la des populations auprès desquelles on intervient.
Alors, est-ce que c'est le fait d'être confronté, Pierre Micheletti, à des situations d'urgence et à la proximité de la mort qui provoque parfois des dérives chez les humanitaires? On repousse alors les limites de ce qui est acceptable?
Je crois que c'est la conséquence de toute situation d'asymétrie et que dans toute organisation humaine, qu'elle soit dans la sphère éducative, dans la sphère religieuse, dès lors qu'existent les conditions de cette asymétrie, on trouvera toujours des individus prédateurs qui sauront utiliser la supériorité de celui qui donne par rapport à celui qui reçoit, ou de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas, ou de celui qui maîtrise le savoir religieux ou le savoir tout court vis-à-vis de qui ne l'a pas. Et donc on n'échappe pas, dans des organisations qui sont l'émanation d'une société, à trouver de tels prédateurs, y compris dans l'humanitaire.
Vous parliez de mettre en place des processus pour pouvoir anticiper ce genre d'abus, mais alors il y a un certain nombre de processus, de mécanismes de ce type qui avaient été mis en place au milieu des années 2000, puisqu'on se souvient qu'il y avait déjà eu un scandale au début des années 2000 en Afrique de l'Ouest, un scandale d'abus sexuels également. Comment comprendre que ça n'ait pas fait effet? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette volonté d'aller vers une grande refondation est plus forte?
C'est un des chantiers à ouvrir, mais il y en a beaucoup d'autres, parce que ce chantier de la violence sexuelle, il vient se télescoper avec d'autres enjeux très importants, les tensions sur les ressources financières, les tensions sur la sécurité des équipes, la fragmentation des conflits. Donc c'est un chantier à ouvrir parmi d'autres, et toute organisation, et Action contre la faim n'échappe pas à cette règle, doit peser l'énergie qu'elle met dans ce chantier absolument nécessaire versus ses autres préoccupations telles que, par exemple, la corruption, le détournement possible de l'aide, etc. Donc, quel équilibre trouver? Chaque organisation doit trouver le bon niveau d'étiage.
Pierre Micheletti, vous qui avez été à la fois sur le terrain et au siège, comment on fait pour superviser des équipes qui se trouvent parfois à des milliers de kilomètres? Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Dans le cadre d'Action contre la faim, on avait déjà des mesures assez drastiques en la matière. On a pris du coup d'autres mesures visant à sécuriser les choses. La première chose, c'est acquérir les compétences en interne qui vont au fil de l'eau en permanence se préoccuper de ces questions. Ensuite, c'est un plan d'information musclé de nos équipes sur le terrain, sur les possibilités d'interpellation de façon anonyme de tout dysfonctionnement que tel ou tel membre d'une équipe pourrait constater. Mais pour la protéger, pour son emploi, pour sa sécurité quelquefois, il faut que toutes ces choses fassent l'objet de schémas d'interpellation qui protègent, pour employer un mot à la mode, les lanceurs d'alerte qui pourraient être témoins de ces questions sur le terrain. Donc ce sont des mécanismes qui vont se mettre en place sur toute une année, qui vont nécessiter des financements, des recrutements et un solide plan de formation et de communication.
Et cela alors même que beaucoup de financements ont disparu après ces scandales?
Oui, enfin, en tous les cas, il y a eu, dans le cas d'Oxfam, la perspective de voir un certain nombre de donateurs privés ou gouvernementaux reprendre, enfin, en tous les cas, ne pas honorer des engagements qu'ils avaient pris, ce qui a mis bien sûr Oxfam Grande-Bretagne en difficulté, et par effet de ricochet, peut exposer les autres ONG internationales, même si aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on tourne la page, mais le soufflet semble un petit peu redescendu.
On entend beaucoup de reproches selon lesquels ce serait la professionnalisation, la bureaucratisation qui aurait éloigné les ONG de leurs idéaux philanthropiques. Vous êtes d'accord avec cela ou c'est trop simple?
Non, je pense que c'est un mécanisme humain plus universel.
Le fait que l'humanitaire est aujourd'hui finalement un plan de carrière comme un autre, est-ce que ça vous paraît un problème? Est-ce que ça creuse le fossé entre les salariés et les bénévoles?
Non, je crois que ce type de dérapage était moins...
Au-delà des dérapages d'abus sexuels.
Oui. Non, la professionnalisation, elle est à la fois nécessaire, mais elle n'est pas exempte d'effets pervers. Nécessaire parce que on ne peut plus aujourd'hui aller soigner des populations la fleur au stéthoscope sans compétences. Entre autres parce que dans la plupart des pays où on intervient, de telles compétences existent. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, etc. Il faut donc qu'on mette en situation d'agir des gens qui peuvent apporter à ces cadres chevronnés sur le terrain. Les effets et les inconvénients, c'est que selon l'origine des financements des ONG, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, si ces financements sont très institutionnels, ils obligent une ONG à s'alourdir pour répondre au mode de fonctionnement de ces grands donateurs que peuvent être en particulier l'Union européenne. Et l'Union européenne a des exigences de transparence financière, de règles financières, qui obligent une ONG qui collecte beaucoup d'argent de l'Union européenne, elle-même, à alourdir ses processus pour remplir le cahier des charges du bailleur.
Mais alors justement, Pierre Micheletti, quand on parle d'humanitaire, de quoi parle-t-on exactement ? Entre quelles différentes entités, par exemple, se répartit chaque année l'aide humanitaire internationale ?
Alors ça, c'est une question très importante. Si vous voulez bien, je vais dépeindre le décor global en une minute. Donc le volume d'aide humanitaire entendu comme aide au développement, solidarité internationale sur le mode de l'urgence, c'est un volume d'aide d'environ 28 milliards de dollars les deux dernières années. Les grands, il y a deux notions à avoir en tête, c'est d'où vient l'argent et qui met en œuvre cet argent. Alors qui met en œuvre cet argent ? Essentiellement trois grandes familles, le système des Nations Unies, avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial, qui sont les deux poids lourds, pour environ un petit peu moins de 50% de la mise en œuvre de ces sommes. Deuxième effecteur, les ONG internationales, pour environ 30%. Troisième effecteur, le système de la Croix-Rouge, c'est-à-dire le Comité international, la Fédération et les Croix-Rouges nationales. Les pourcentages qui restent marginaux sont plutôt de la coopération interétatique ou des entreprises privées. Mais voilà les grands effecteurs.
Le tableau est présenté. Alors, il y a environ 250 ONG internationales et trois modèles dominent. On parle en général du modèle scandinave, du modèle anglo-saxon, du modèle méditerranéen. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont peut-être les grandes différences, notamment dans leur rapport à l'État, et laquelle vous paraît, vous, à titre personnel, la mieux à même d'assurer la mission que se fixent les ONG ?
Alors, les 250 ONG internationales que vous évoquez, ce sont les majors, c'est-à-dire celles qui, pour l'Office de coordination de l'action humanitaire des Nations Unies, sont considérées comme des effecteurs majeurs. En fait, des associations qui œuvrent dans le champ de la solidarité internationale, il y en a des milliers. Mmh. Et selon la London School of Economics, elles seraient même, mes chiffres datent déjà de quelques années, 59 000, donc c'est vous dire. Mais les 250 qui comptent sont celles que vous évoquez. Alors, elles ont des caractéristiques qui permettent de trier, de dresser des éléments de typologie de toutes ces organisations. Leur domaine d'intervention, l'agriculture, la santé, que sais-je, là je parle toujours de la réponse aux urgences, leur caractère confessionnel ou pas, et puis un critère qui devient un critère très sensible aujourd'hui compte tenu des nouvelles réalités sur le terrain et politique, c'est que dans ce monde des pluriel des ONG, il existe des cultures différentes dans la relation qu'entretient une ONG avec le gouvernement de son pays d'origine. D'où la typologie que vous évoquez de modèle scandinave, anglo-saxon ou méditerranéen. Mmh. Il y a des pays où une ONG vit sans complexe le fait d'être un outil de politique étrangère de son gouvernement et donc reçoit à ce titre beaucoup de financement. C'est le cas en Suède. C'est le modèle scandinave. Et puis, pour être un peu court, l'autre modèle plus turbulent, plus en rupture avec la sphère gouvernementale, c'est le modèle méditerranéen dans lequel on classe volontiers les ONG françaises, Médecins sans frontières, Action contre la faim, Médecins du monde, qui sont dans des logiques liées un petit peu de leur histoire contemporaine de mise en tension de la sphère gouvernementale, ceci étant l'héritage des thèses de Tocqueville au XIXe siècle qui disait qu'une démocratie, pour exister, elle avait besoin de contre-pouvoirs. Et y compris dans sa politique étrangère, les ONG internationales peuvent jouer ce rôle de contre-pouvoir. C'est pourquoi on a en France des ONG volontiers turbulentes et dérangeantes pour le gouvernement, ce qui n'est pas toujours le cas. Quelle est l'importance quand même de cette typologie ? C'est que si vous êtes sur un terrain complexe comme l'Afghanistan, et que les différentes familles que vous venez d'évoquer cohabitent sur ce terrain complexe, il est bien évident que de la part des belligérants, en particulier par exemple des mouvements talibans, voire des ONG qui s'affichent sans complexe avec les troupes étrangères d'occupation, n'est pas anodin. Et que donc, vous risquez en vous mariant, en vous affichant avec des ONG qui ne sont pas dans votre culture politique, d'être vous-même assimilé à des outils de politique étrangère, de la coalition internationale, et donc pris pour cible des talibans.
Alors justement, Pierre Micheletti, le mois dernier, 50 tonnes d'aide humanitaire fournies par Paris ont été acheminées en Syrie par un avion militaire russe, signe du rapprochement entre la France et la Syrie. Quelles sont les conséquences alors de ce brouillage des missions entre celles de l'armée et celles de l'humanitaire? C'est ce qui met ensuite en danger les ONG sur le terrain.
C'est qu'il y a des terrains où on ne sait plus qui fait quoi. C'est-à-dire, je reste sur l'Afghanistan parce qu'il est particulièrement emblématique, mais on pourra revenir sur la Syrie. Si vous avez des troupes étrangères qui font la guerre et qui font la guerre au service d'un gouvernement en place qui est remis en cause par un certain nombre de belligérants. Et vous avez cette armée d'occupation qui développe des actions dites destinées à gagner les cœurs et les esprits. C'est-à-dire que ces mêmes troupes de la coalition, via ce qu'on appelle les patrouilles, les équipes de reconstruction provinciale, déclarent que les forces armées font également de l'aide humanitaire. Donc on a des militaires qui font la guerre tout en disant qu'ils développent des actions humanitaires. Mmh. On a une constellation d'ONG internationales dont certaines s'affichent avec la coalition, dont d'autres, au contraire, s'en tiennent rigoureusement à l'écart. Donc, il n'y a pas chez les rebelles, tous les rebelles n'ont pas un diplôme d'anthropologie politique, donc ça brouille l'image.
Et alors, selon l'ONU, le nombre d'incidents à l'encontre des humanitaires a pratiquement doublé entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. On assiste à une montée de l'insécurité pour le personnel des ONG internationales.
Alors, c'est une analyse à nuancer parce que, en gros, aux dernières études qui tiennent la route, on est sur un niveau d'incidence des accidents violents, enfin des actions violentes à l'égard des humanitaires, de l'ordre de 8000, de 8 pour 10 000. On a le sentiment que ça grimpe un petit peu, mais ça peut être tout à fait saisonnier. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette augmentation, elle est quand même portée par un certain nombre de pays particulièrement exposés. C'est-à-dire que, autrement dit, pour vous répondre concrètement, il n'y a pas une généralisation universelle des actes de violence à l'égard des humanitaires. Il y a des terrains comme l'Irak, comme l'Afghanistan, comme la Somalie, qui sont considérés comme des terrains à risque. Et ce sont ces pays-là qui tirent les statistiques vers le haut.
Et c'est pour cela qu'il est absolument nécessaire, selon vous, Pierre Micheletti, d'établir une frontière claire entre la solidarité dictée par la raison d'État et les missions des ONG.
Mais en tous les cas, c'est la position de beaucoup d'ONG françaises et puis du mouvement de la Croix-Rouge surtout, qui a construit tous ces principes de neutralité, d'impartialité, d'indépendance, etc., sur le fait que ce qui dictait les acteurs, restons sur la question du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, ce qui fait que cette organisation est dans beaucoup de terrains acceptés de toutes les parties, c'est qu'elle est identifiée en étant présente, y compris dans des terrains très sensibles comme Guantanamo ou Abu Ghraib. Mmh. Elle est considérée par les belligérants comme une organisation capable d'équidistance à l'égard des parties en conflit.
Et pourtant, elle est financée par les États-Unis.
Et pourtant, elle est malgré tout financée. Mais la puissance de cette organisation, la reconnaissance dont elle fait l'objet aujourd'hui, justement sur ces questions de neutralité et d'impartialité, fait que, ben, pour une fois, l'argent n'a pas trop d'odeur. Mais d'autres ONG, même des grandes ONG internationales, qui n'auraient pas cette force symbolique ou qui se laisseraient davantage manipuler par la question politique, s'exposent, elles, par contre, à des actes violents.
Dès 2008, Pierre Micheletti, vous appeliez à une désoccidentalisation du monde humanitaire. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Et 10 ans plus tard, quel est le bilan?
Alors, pour vous répondre, il faut d'abord que j'éclaircisse une chose, c'est quel est l'état des lieux aujourd'hui de cette aide humanitaire qu'on évoquait tout à l'heure de 28 milliards de dollars. Elle est essentiellement financée par des pays occidentaux et essentiellement mise en œuvre par des ONG internationales occidentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le volume financier de ces 28 milliards mis en œuvre par des ONG nationales ou locales, il est de 0,4%. Autrement dit, dans la représentation d'un certain nombre de belligérants dans des terrains de crise ou dans des terrains en conflit, qui dit ONG dit organisation émanant du monde occidental. Donc il est nécessaire de le comprendre, sinon on ne comprend pas les postures que je défends autour de la question de la désoccidentalisation. Et ce que je défends par là, c'est non pas de le sanglot de l'homme blanc et de renoncer, c'est de dire qu'aujourd'hui, un métissage est nécessaire, pour trois types de raisons. D'abord parce que ce métissage nous donnerait peut-être des modus operandi nouveaux dont on a besoin aujourd'hui sur des nouveaux terrains de crise. La façon dont une grande ONG indienne intervient dans le golfe du Bengale sur des cyclones n'est pas le modus operandi d'une grande ONG médicale type MSF.
Apprend encore trop peu des ONG locales.
On a besoin en tout cas de ces organisations qui nous disent, attendez, le secours en extrême urgence c'est important, mais la résilience des populations est tout aussi important. Et ça, pour la culture humanitaire, parlons de la culture française, c'est une nécessité. Deuxième raison, je vous ai dit que l'aide humanitaire était financée essentiellement par des pays occidentaux. Or, aujourd'hui, la richesse n'est plus chez nous. Comment se fait-il que, on ne va pas le développer ici, mais pourquoi le volume financier dédié par la Chine à l'aide humanitaire est-elle aujourd'hui celle du Luxembourg ? Donc, il y a des niches...
Vous avez une réponse ?
Parce que c'est historiquement un pays qui préfère la solidarité internationale de gouvernement à gouvernement, comme on peut le supposer dans un pays communiste. Et donc cette entité un peu martienne que sont les ONG, ce n'est pas dans la culture politique de la Chine.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui se développe ?
En tous les cas, c'est quelque chose qu'il faudrait développer, par, si nous avons l'intelligence, de créer un Action contre la faim Chine, un Action contre la faim Inde, etc. Et là, donc... chercher l'argent où il est, métisser ses savoir-faire. Et troisièmement, il y a un principe de réalité qui s'impose à nous, c'est qu'il est des terrains, qu'on fait la Syrie, la Libye, l'Irak, où les ONG internationales, dès lors qu'elles sont occidentales, ne sont pas les bienvenues. Et que donc, dans ces terrains-là, au cœur de la crise, ce sont les ONG locales qui toujours sont en situation d'agir. Donc il faut les aider à se développer, ce qui n'est pas sans risque, parce que ces ONG nationales ou locales, pourront-elles, elles, au milieu de la mêlée, respecter les mêmes gages d'impartialité, de neutralité que revendiquent les ONG internationales ? C'est un problème. Mais il y a un principe de réalité qui s'impose à nous.
Et ces mesures que vous appelez de vos voeux, vous avez l'impression qu'elles sont partagées aujourd'hui au sein de l'humanitaire en France ?
Alors, elles s'imposent au nom d'un principe de réalité, mais il y a une difficulté à lâcher prise. Il y a une difficulté à lâcher prise parce que nous sommes quand même dans une symbolique d'un humanitaire, parlons français, d'un humanitaire français un peu flamboyant, qui a du mal un petit peu à être dans le lâcher prise ou dans le partage du pouvoir. Il ne s'agit pas tellement de métisser les équipes et d'avoir des Asiatiques ou des Africains, ça c'est déjà fait. Mais il s'agit que dans la gouvernance, on retrouve, alors que toutes les grandes ONG sont en train de se transnationaliser, pourquoi ces grandes ONG ont-elles des difficultés à aller chercher des partenaires en Inde, en Chine, au Brésil ou en Afrique du Sud ?
Je voudrais qu'on ouvre un nouveau chapitre autour de la question de la criminalisation des ONG. En juin, l'Italie a refusé de laisser accoster le navire humanitaire Aquarius, on le sait, navire qui a secouru près de 3000 migrants en Méditerranée cette année. Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur et chef de file de la Ligue, accuse les ONG d'agir, je cite, comme des taxis en Méditerranée. Emmanuel Macron, lui, les accuse de faire le jeu des passeurs. Que vous inspire ces discours, Pierre Miguel ?
Je crois qu'on marche sur la tête, parce que est-ce qu'on dirait la même chose aujourd'hui des justes qui ont aidé les juifs à franchir des frontières quand il a fallu aller se réfugier en dehors de l'Allemagne. Or, même si ça ne plaît pas aux pays occidentaux, nous sommes dans une situation identique, c'est-à-dire que nous avons affaire pour une large part, pas absolument tous, mais pour une large part à des gens qui rentrent dans le cadre de la Convention du 28 juillet 51 et qui vont chercher refuge dans des pays tiers au motif qu'ils se sentent confrontés à des dangers avérés dans leur pays d'origine. Mais tout se passe comme si ce texte de 51, qui a été édicté après la Deuxième Guerre mondiale, par un monde encore dominé par l'Occident, refusait d'appliquer au monde tel qu'il existe aujourd'hui des règles qu'il a édictées pour, après le drame de la Deuxième Guerre mondiale.
En Hongrie, cela va plus loin, une loi qui pourrait conduire à des peines de prison pour toute personne assistant des migrants en situation illégale ou non a été votée au mois de juin. Pour vous, il s'agit vraiment ici d'une criminalisation des ONG, et quelle peut être la réponse des associations ?
Le droit, quand on est véritablement dans des états de droit, vous voyez qu'à contrario, ce qui vient de se passer en France, c'est que le délit de solidarité qui a été mis en péril à un moment donné n'est pas retenu, et que ce qui permet donc de réaffirmer que l'acte de solidarité vis-à-vis de ces personnes, il est entendu par le droit français. Donc,
mais ce phénomène de criminalisation des ONG, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'humanitaire ?
Pour celles qui travaillent sur la question cruciale des migrants, parce qu'une des réalités aujourd'hui, on évoquait les grands changements du contexte humanitaire général, c'est que la question du déplacement de population s'est brusquement accélérée depuis 2010, avec la concomitance à la fois de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan, etc. Et que donc, il nous faut légiférer en termes de droit international sur ces questions, et pas bidouiller, parce que ça, plus d'autres raisons, comme des raisons climatiques ou autres, font que dans les années à venir, nous allons être très en tension sur ces questions du déplacement de population.
Pierre Micheletti, vous avez publié il y a quelques années un roman, Les Orphelins, coédité par Desclée des Brouwer et RFI, qui revient sur le fiasco de l'Arche de Zoé. Alors en 2007, je rappelle, l'association tentait d'exfiltrer du Tchad vers la France 103 enfants présentés comme des orphelins du Darfour, une opération complètement illégale qui s'était soldée par un échec. Pourquoi avoir choisi la fiction pour revenir sur cet épisode, Pierre Micheletti ?
Parce que j'avais envie de franchir le pas d'écriture d'essais sur les questions humanitaires ou d'articles à une fiction, que cette affaire m'avait beaucoup dérangé comme père de famille déjà, d'imaginer, j'avais envie d'imaginer ce qu'aurait pu être le rapt d'enfants, mais aussi parce que je voulais pouvoir développer une thèse que j'avais à l'époque, qui est que cette affaire de l'Arche de Zoé était beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Ça a été certes un dérapage humanitaire, un bidouillage d'une bande de pieds-nickelés, comme ça a été beaucoup dit, mais, et sans que ça ait été une volonté des autorités françaises, c'était une opération qui, au départ, avait le soutien des autorités françaises. Pourquoi ? Parce que une exfiltration d'enfants qui véritablement auraient été orphelins, issus du Darfour, permettait à l'État français d'étayer la thèse qu'il se passait toujours des choses horribles au Darfour. Et que étayer cette thèse permettait aux autorités françaises de développer un cordon militaire via le fort à la frontière entre le Tchad et le Darfour. Et ce cordon militaire, présenté à des fins de déploiement humanitaire, il permettait entre autres de sécuriser le président tchadien, dont bon nombre d'opposants armés font du cross-border entre le Darfour et le Tchad. Donc c'est une situation plus complexe qu'il apparaît.
Et la fiction vous a permis de l'exprimer?
Oui, parce que j'aurais pas forcément été en situation de comme on peut l'être dans un essai, d'étayer les thèses que je suis en train de développer devant vous, alors que la fiction littéraire me laissait plus de liberté pour le faire.
Pierre Micheletti, dans les exemples de bonnes intentions qui se transforment parfois en vraie maladresse, il y a la chanson « Do They Know It's Christmas », une reprise d'un tube de 1984 qui visait à l'époque à récolter des fonds contre la famine en Éthiopie. Il y a 4 ans, de nombreuses stars se mobilisent contre Ebola et reprennent la chanson. Malheureusement, elle multiplie les stéréotypes sur le continent africain qui attendrait d'être sauvé par les Blancs. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. La chanson multiplie les clichés sur le continent africain. C'est un exemple de méconnaissance flagrante des terrains d'intervention de l'humanitaire, Pierre Micheletti, même si, encore une fois, l'intention était bonne.
C'est un exemple flagrant de la symétrie entre les pays intervenants et les pays récipiendaires. Asymétrie, pour revenir sur un autre sujet qui me tient à cœur, qui est asymétrie dans le traitement de l'image. Est-ce qu'on met en scène de la même façon un mort, qu'il soit africain ou le petit Elan sur une plage turque, comme on mettrait en scène les morts des inondations d'Arles il y a quelques années? Non.
Vous allez, à ce propos, participer à une conférence sur ce sujet à Blois?
Absolument. Les rendez-vous de l'histoire de Blois qui se tiennent en octobre ont pour thème cette année la puissance de l'image. Et j'ai proposé aux organisateurs qui ont accepté qu'on organise dans le cadre de ces journées une table ronde qui, en gros, dont le thème sera usage et mésusage de l'image par les humanitaires, jusqu'où ne pas aller.
Et alors, Pierre Micheletti, un dernier mot. Je précise pour les auditeurs que vous allez publier en septembre une mémoire d'Indien, récit d'un médecin du monde aux éditions Parole. Vous pouvez nous en dire juste quelques mots ?
Oui, c'est un récit donc, qu'on aimerait pouvoir raconter aujourd'hui dans les zones urbaines sensibles, celle d'une famille de migrants, la mienne, et la migration autour du pourtour méditerranéen de cette famille, du sud de l'Espagne en Algérie, de l'Algérie à la France et retour à la frontière espagnole. Et en même temps, l'occasion pour moi de développer quelque chose qui n'est pas très, très exceptionnel dans ma génération. Comment, pour un jeune garçon dont les deux grands-mères étaient analphabètes, a pu fonctionner l'ascenseur social.
Merci beaucoup Pierre Micheletti d'avoir été avec nous aujourd'hui pour tenter de trouver des réponses à cette crise que traverse l'humanitaire. Un grand merci d'être venu dans nos studios.
Merci à vous.
Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine à partir de 12h40. Mais tout de suite, on retrouve Nicolas Martin et les idées claires.